Chapitre 7 En descendant le Volga. Un peu avant midi, la cloche du steamboat attirait à l'embarcadère du Volga un grand concours de monde, puisqu'il y avait là ceux qui partaient et ceux qui auraient voulu partir. Les chaudières du Caucase étaient en pression suffisante. Sa cheminée ne laissait plus échapper qu'une fumée légère, tandis que l'extrémité du tuyau d'échappement et le couvercle des soupapes se couronnaient de vapeurs blanches. Il va sans dire que la police surveillait le départ du Caucase et se montrait impitoyable à ceux des voyageurs qui ne se trouvaient pas dans les conditions voulues pour quitter la ville. De nombreux Cosaques allaient et venaient sur le quai, prêts à prêter main forte aux agents, mais ils n'eurent point à intervenir et les choses se passèrent sans résistance. À l'heure réglementaire, le dernier coup de cloche retentit, les amarres furent larguées, les puissantes roues du steamboat battirent l'eau de leurs palettes articulées et le Caucase fila rapidement entre les deux villes dont se compose Nijni Novgorod. Michel Strogoff et la jeune Livonienne avaient pris passage à bord du Caucase. Leur embarquement s'était fait sans aucune difficulté. On le sait, le Podarochna libellé au nom de Nicolas Korpanov autorisait ce négociant à être accompagné pendant son voyage en Sibérie. C'était donc un frère et une sœur qui voyageaient sous la garantie de la police impériale. Tous deux, assis à l'arrière, regardaient fuir la ville, si profondément troublée par l'arrêté du gouverneur. Michel Strogoff n'avait rien dit à la jeune fille. Il ne l'avait pas interrogée. Il attendait qu'elle parlât, s'il lui convenait de parler. Celle-ci avait hâte d'avoir quitté cette ville dans laquelle, sans l'intervention providentielle de ce protecteur inattendu, elle fut restée prisonnière. Elle ne disait rien, mais son regard remerciait pour elle. Le Volga, le rat des anciens, est considéré comme le fleuve le plus considérable de toute l'Europe, et son cours n'est pas inférieur à 4000 verstes, 4300 km. Ses eaux, assez insalubres dans sa partie supérieure, sont modifiées à Nijni Novgorod par celles de l'Oka, affluent rapide qui s'échappe des provinces centrales de la Russie. On a justement comparé l'ensemble des canaux et fleuves russes à un arbre gigantesque dont les branches se ramifient sur toutes les parties de l'Empire. C'est le Volga qui forme le tronc de cet arbre, et il a pour racine 70 embouchures qui s'épanouissent sur le littoral de la mer Caspienne. Il est navigable depuis Rjev, ville du gouvernement de Tver, c'est-à-dire sur la plus grande partie de son cours. Les bateaux de la compagnie des transports entre Perm et Nijni Novgorod font assez rapidement les 350 verstes, 373 km, qui séparent cette ville de la ville de Kazan. Il est vrai que ces steamboats n'ont qu'à descendre le Volga, lequel ajoute environ 2000 de courant à leur vitesse propre. Mais lorsqu'ils sont arrivés au confluent de la Kama, un peu au-dessous de Kazan, ils sont forcés d'abandonner le fleuve pour la rivière, dont ils doivent alors remonter le cours jusqu'à Perm. Donc, tout compte établi, et bien que sa machine fût puissante, le Caucase ne devait pas faire plus de 16 verstes à l'heure, en réservant une heure d'arrêt à Kazan. Le voyage de Nijni Novgorod à Perm devait donc durer 60 à 62 heures environ. Ce steamboat, d'ailleurs, était fort bien aménagé, et les passagers, suivant leurs conditions ou leurs ressources, y occupaient trois classes distinctes. Michel Strogoff avait eu soin de retenir deux cabines de première classe, de sorte que sa jeune compagne pouvait se retirer dans la sienne et s'isoler quand bon lui semblait. Le Caucase était très encombré de passagers de toutes catégories. Un certain nombre de trafiquants asiatiques avaient jugé bon de quitter immédiatement Nijni Novgorod. Dans la partie du steamboat réservée à la première classe, se voyaient des Arméniens en longue robe et coiffés d'espèces de mitres, des Juifs, reconnaissables à leur bonnet conique, des riches Chinois dans leur costume traditionnel, robes très larges, bleues, violettes ou noires, ouverte devant et derrière et recouverte d'une seconde robe à larges manches dont la coupe rappelle celle des popes, des Turcs qui portaient encore le turban, des Hindous à bonnet carré avec un simple cordon pour ceinture et dont quelques-uns plus spécialement désignés sous le nom de Shikarpuri tiennent entre leurs mains tout le trafic de l'Asie centrale. Enfin des Tartares, chaussés de bottes agrémentées de soutaches multicolores et la poitrine plastronnée de broderies. Tous ces négociants avaient dû entasser dans la cale et sur le pont leurs nombreux bagages, dont le transport devait leur coûter cher car, réglementairement, ils n'avaient droit qu'à un poids de 20 livres par personne. À l'avant du Caucase étaient groupés des passagers plus nombreux, non seulement des étrangers mais aussi des Russes, auxquels l'arrêté ne défendait pas de regagner les villes de la province. Il y avait là des moudjiks, coiffés de bonnets ou de casquettes, vêtus d'une chemise à petits carreaux sur leur vaste pelisse, et des paysans du Volga, pantalons bleus fourrés dans leurs bottes, chemises de coton rose serrées par une corde, casquettes plates ou bonnets de feutre. Quelques femmes, vêtues de robes de cotonnade à fleurs, portaient le tablier à couleurs vives et le mouchoir à dessins rouges sur la tête. C'étaient principalement des passagers de troisième classe que, très heureusement, la perspective d'un long voyage de retour ne préoccupait pas. En somme, cette partie du pont était fort encombrée. Aussi les passagers de l'arrière ne s'aventuraient-ils guère parmi ces groupes très mélangés dont la place était marquée sur l'avant des tambours. Cependant, le Caucase filait de toute la vitesse de ses aubes entre les rives du Volga. Il croisait de nombreux bateaux auxquels des remorqueurs faisaient remonter le cours du fleuve et qui transportaient toutes sortes de marchandises à Nijni Novgorod. Puis passaient des trains de bois, longs comme ces interminables fils de sargasses de l'Atlantique, et des chalands chargés à couler bas, noyés jusqu'au plat-bord. Voyage inutile à présent, puisque la foire venait d'être brusquement dissoute à son début. Les rives du Volga, éclaboussées par le sillage du steamboat, se couronnaient de volées de canards qui fuyaient en poussant des cris assourdissants. Un peu plus loin, sur ces plaines sèches, bordées d'aunes de saules de tremble, s'éparpillaient quelques vaches d'un rouge foncé, des troupeaux de moutons à toison brune, de nombreuses agglomérations de porcs et de porcelets blancs et noirs. Quelques champs semés de maigres sarrasins et de seigles s'étendaient jusqu'à l'arrière-plan de coteaux à demi cultivés, mais qui, en somme, n'offrait aucun point de vue remarquable. Dans ces paysages monotones, le crayon d'un dessinateur en quête de quelques sites pittoresques n'eût rien trouvé à produire. 2 heures après le départ du Caucase, la jeune Livonienne, s'adressant à Michel Strogoff, lui dit « Tu vas à Irkoutsk, frère ?»«
Oui, sœur, » répondit le jeune homme. « Nous faisons tous les deux la même route. » Par conséquent, partout où je passerai, tu passeras.
Demain, frère, tu sauras pourquoi j'ai quitté les rives de la Baltique pour aller au-delà des monts Ourals.
Je ne te demande rien, sœur. Tu sauras tout, répondit la jeune fille, dont les lèvres ébauchèrent un triste sourire. Une sœur ne doit rien cacher à son frère. Mais aujourd'hui, je ne pourrai. La fatigue, le désespoir m'avait brisé.
Veux-tu te reposer dans ta cabine ? Demanda Michel Strogoff.
« Oui, oui. Et demain, viens donc. »
Il hésitait à finir sa phrase, comme s'il eût voulu l'achever par le nom de sa compagne et qu'il ignorait encore.
« Nadia, » dit-elle en lui tendant la main.
« Viens, Nadia, » répondit Michel Strogoff, « et use sans façon de ton frère Nicolas Korpanov. » Et il conduisit la jeune fille à la cabine qui avait été retenue pour elle sur le salon de l'arrière. Michel Strogoff revint sur le pont, et avide des nouvelles qui pouvaient peut-être modifier son itinéraire, il se mêla au groupe de passagers, écoutant, mais ne prenant point part aux conversations. D'ailleurs, si le hasard faisait qu'il fût interrogé et dans l'obligation de répondre, il se donnerait pour le négociant Nicolas Korpanov que le Caucase reconduisait à la frontière, car il ne voulait pas que l'on pût se douter qu'une permission spéciale l'autorisait à voyager en Sibérie. Les étrangers que le steamboat transportait ne pouvaient évidemment parler que des événements du jour, de l'arrêté et de ses conséquences. Ces pauvres gens, à peine remis des fatigues d'un voyage à travers l'Asie centrale, se voyaient forcés de revenir, et s'ils n'exhalaient pas hautement leur colère et leur désespoir, c'est qu'ils ne l'osaient. Une peur, mêlée de respect, les retenait. Il était possible que des inspecteurs de police chargés de surveiller les passagers fussent secrètement embarqués à bord du Caucase, et mieux valait tenir sa langue, l'expulsion, après tout, étant encore préférable à l'emprisonnement dans une forteresse. Aussi parmi ces groupes, où l'on se taisait, où les propos s'échangeaient avec une telle circonspection,
qu'on ne pouvait guère en tirer quelque utile renseignement. Mais si Michel Strogoff n'eut rien à apprendre de ce côté, si même les bouches se fermèrent plus d'une fois à son approche, car on ne le connaissait pas, ses oreilles furent bientôt frappées par les éclats d'une voix peu soucieuse d'être ou non entendue. L'homme à la voix gaie parlait russe, mais avec un accent étranger, et son interlocuteur, plus réservé, lui répondait dans la même langue, qui n'était pas non plus sa langue originelle. « Comment ? » disait le premier. « Comment, vous sur ce bateau, mon cher confrère, vous que j'ai vu à la fête impériale de Moscou et seulement entrevu à Nijni Novgorod ?»«
Moi-même, » répondit le second d'un ton sec.
« Eh bien, franchement, je ne m'attendais pas à être immédiatement suivi par vous et de si près. »
« Je ne vous suis pas, monsieur. Je vous précède. »«
Précède, précède. Mettons que nous marchons de front du même pas, comme deux soldats à la parade, et provisoirement du moins. Convenons, si vous le voulez, que l'un ne dépassera pas l'autre. »«
Je vous dépasserai, au contraire. » »«
Nous verrons cela quand nous serons sur le théâtre de la guerre. »« Mais jusque-là, que diable ! Soyons compagnons de route. Plus tard, nous aurons bien le temps et l'occasion d'être rivaux. »«
Ennemis. »
Ennemi, soit. Vous avez dans vos paroles, cher confrère, une précision qui m'est tout particulièrement agréable. Avec vous au moins, on sait à quoi s'en tenir.
Où est le mal ?
Il n'y en a aucun. Aussi, à mon tour, je vous demanderai la permission de préciser notre situation réciproque.
Précisez.
Vous allez à Perm, comme moi.
Comme vous.
Et, probablement, vous vous dirigerez de Perm sur Ekaterinbourg, puisque c'est la route la meilleure et la plus sûre par laquelle on puisse franchir les monts Ourals.
Probablement.
Une fois la frontière passée, nous serons en Sibérie, c'est-à-dire en pleine invasion.
Nous y serons.
Eh bien alors, mais seulement alors, ce sera le moment de dire « Chacun pour soi et Dieu pour moi ».
Dieu pour vous, tout seul ?
Très bien. Mais puisque nous avons devant nous une huitaine de jours neutres, et puisque très certainement les nouvelles ne pleuvront pas en route, soyons amis, jusqu'au moment où nous redeviendrons rivaux.
Ennemis.
Oui, c'est juste, ennemis. Mais jusque-là, agissons de concert et ne nous entre-devrons pas. Je vous promets d'ailleurs de garder pour moi tout ce que je pourrai voir.
Et moi, tout ce que je pourrai entendre.
Est-ce dit ?
C'est dit.
Votre main ?
La voilà.
Et la main du premier interlocuteur, c'est-à-dire cinq doigts largement ouverts, secoua vigoureusement les deux doigts que lui tendit flegmatiquement le second.
À propos, dit le premier, j'ai pu ce matin télégraphier à ma cousine le texte même de l'arrêté dès 10h17.
Et moi, je l'ai adressé au Daily Telegraph dès 10h13.
Bravo, monsieur Blount.
Trop bon, monsieur Jolivet.
À charge de revanche.
Ce sera difficile.
On essaiera pourtant.
Ce disant, le correspondant français salua familièrement le correspondant anglais qui, inclinant sa tête, lui rendit son salut avec une raideur toute britannique. Ces deux chasseurs de nouvelles, l'arrêté du gouverneur ne les concernait pas puisqu'ils n'étaient ni russes ni étrangers d'origine asiatique. Ils étaient donc partis. Et s'ils avaient quitté ensemble Nijni Novgorod, c'est que le même instinct les poussait en avant. Il était donc naturel qu'ils eussent pris le même moyen de transport et qu'ils suivissent la même route jusqu'aux steppes sibériennes. Compagnons de voyage, amis ou ennemis, ils avaient devant eux 8 jours avant que la chasse fût ouverte. Et alors, au plus adroit. Alcide Jolivet avait fait les premières avances, et si froidement que ce fût, Harry Blount les avait acceptées. Quoi qu'il en soit, au dîner de ce jour, le français, toujours ouvert et même un peu loquace, l'anglais, toujours fermé, toujours gourmé, trinquaient à la même table en buvant un cliquot authentique à 6 roubles la bouteille, généreusement faite avec la sève fraîche des bouleaux du voisinage. En entendant ainsi causer Alcide Jolivet et Harry Blount, Michel Strogoff s'était dit « Voici des curieux et des indiscrets que je rencontrerai probablement sur ma route. Il me paraît prudent de les tenir à distance. » la jeune Livonienne ne vint pas dîner. Elle dormait dans sa cabine et Michel Strogoff ne voulut pas la faire réveiller. Le soir arriva donc sans qu'elle eût reparu sur le pont du Caucase. Le long crépuscule imprégnait alors l'atmosphère d'une fraîcheur que les passagers recherchèrent avidement après l'accablante chaleur du jour. Quand l'heure fut avancée, la plupart ne songèrent même pas à regagner les salons ou les cabines. Étendus sur les bancs, ils respiraient avec délice un peu de cette brise que développait la vitesse du steamboat. Le ciel, à cette époque de l'année et sous cette latitude, devait à peine s'obscurcir entre le soir et le matin. Et il laissait au timonier toute aisance pour se diriger au milieu des nombreuses embarcations qui descendaient ou remontaient le Volga. Cependant, entre 11h et 2h du matin, la lune étant nouvelle, il fit à peu près nuit. Presque tous les passagers du pont dormaient alors, et le silence n'était plus troublé que par le bruit des palettes frappant l'eau à intervalles réguliers. Une sorte d'inquiétude tenait éveillé Michel Strogoff. Il allait et venait, mais toujours à l'arrière du steamboat. Une fois cependant, il lui arriva de dépasser la chambre des machines. Il se trouva alors sur la partie réservée aux voyageurs de seconde et de troisième classe. Là, on dormait non seulement sur les bancs, mais aussi sur les ballots, les colis et même sur les planches du pont. Seuls, les matelots de quart se tenaient debout sur les gaillards d'avant. Deux lueurs, l'une verte, l'autre rouge, projetées par les fanaux de tribord et de bâbord, envoyaient quelques rayons obliques sur les flancs du steamboat. Il fallait une certaine attention pour ne pas piétiner les dormeurs, capricieusement étendus çà et là. C'était pour la plupart des moudjiks, habitués de coucher à la dure et auxquels les planches d'un pont devaient suffire. Néanmoins, ils auraient fort mal accueilli, sans doute, le maladroit qui les eût éveillés à coups de botte. Michel Strogoff faisait donc attention à ne heurter personne. En allant ainsi vers l'extrémité du bateau, il n'avait d'autre idée que de combattre le sommeil par une promenade un peu plus longue. Or, il était arrivé à la partie antérieure du pont et il montait déjà l'échelle du gaillard d'avant lorsqu'il entendit parler près de lui. Il s'arrêta. Les voix semblaient venir d'un groupe de passagers enveloppés de châles et de couvertures qu'il était impossible de reconnaître dans l'ombre. Mais il arrivait parfois, lorsque la cheminée du steamboat au milieu des volutes de fumée s'empanachait de flammes rougeâtres, que des étincelles semblaient clourir à travers le groupe, comme si des milliers de paillettes se fussent subitement allumées sous un rayon lumineux. Michel Strogoff allait passer outre, lorsqu'il entendit plus distinctement certaines paroles, prononcées en cette langue bizarre qui avait déjà frappé son oreille pendant la nuit sur le champ de foire. Instinctivement, il eut la pensée d'écouter. Protégé par l'ombre du gaillard, il ne pouvait être aperçu. Quant à voir les passagers qui causaient, cela lui était impossible. Il dut donc se borner à prêter l'oreille. Les premiers mots qui furent échangés n'avaient aucune importance, du moins pour lui, mais ils lui permirent de reconnaître précisément les deux voix de femmes et d'hommes qu'il avait entendues à Nijni Novgorod. Dès lors, redoublement d'attention de sa part, il n'était pas impossible en effet que cette cigane, dont il avait surpris un lambeau de conversation, maintenant expulsée avec tous leurs congénères, ne fussent à bord du Caucase. Eh bien, lui en prit d'écouter, car ce fut assez distinctement qu'il entendit cette demande et cette réponse, faites en idiome tartare. On dit qu'un courrier est parti de Moscou pour Irkoutsk. On le dit sans garer, mais ou ce courrier arrivera trop tard, ou il n'arrivera pas. Michel Strogoff tressaillit involontairement à cette réponse, qui le visait directement. Il essaya de reconnaître si l'homme et la femme qui venaient de parler étaient bien ceux qu'il soupçonnait, mais l'ombre était alors trop épaisse et il n'y put réussir. Quelques instants après, Michel Strogoff, sans avoir été aperçu, avait regagné l'arrière du steamboat et la tête dans les mains, il s'asseyait à l'écart. on eût pu croire qu'il dormait. Il ne dormait pas, et ne songeait pas à dormir. Il réfléchissait à ceci, non sans une assez vive appréhension. Qui donc sait mon départ? Et qui donc a intérêt à le savoir?